So Much Drama, une conversation sans drame avec des artistes dramatiques. Qu'en est-il du théâtre et de la scène? Quel est son champ d'action? Que raconte-t-il encore de notre monde? Comment se renouvelle-t-il? Je suis Aurélie Ruby, je me suis réveillée un matin et je me suis demandé pourquoi j'avais consacré ma vie au théâtre, tout simplement. Cet art qui est à la fois un art ancestral et un art du présent perpétuel, qui peut être partout et qui s'enferme dans la noirceur des salles, qui n'est pas complètement à la pointe mais qui n'a pas disparu. Et j'ai décidé d'inviter celles et ceux qui avaient eux aussi la folie d'y consacrer leur vie. En plein confinement, j'ai proposé à Jean-Claude Drouot une conversation téléphonique. Lui dans son jardin, moi dans mon salon, nous avons retracé sa longue carrière, allant de Thierry La Fronde, le grand rôle qui l'a fait connaître à la télévision dans les années 60, à Dante Saluste, dans Ruy Blas de Victor Hugo, qu'il interprétera à nouveau quand les théâtres rouvriront leurs portes, et en passant par Varda, Chabrol ou encore Dali. Alors Jean-Claude, je voudrais te remercier d'être avec moi aujourd'hui, de m'avoir rejoint pour cette interview virtuelle en ces temps singuliers qui nous assignent un peu à résidence. Tu as traversé le XXe siècle sur les planches, tu as multiplié les grands rôles que le répertoire peut offrir à un acteur, tu as été une des premières stars de la télévision française dans les années 60 avec La Fleur au Fusil. Dans certaines pièces, tu as joué plusieurs rôles, même à différents âges, comme par exemple dans Ruy Blas, dont tu as interprété Ruy Blas, puis Don Saluste. Tu as joué au cinéma pour Varda et Chabrol. Tu as un peu une encyclopédie vivante de tous ceux qui ont fait la scène artistique et poétique du XXe siècle. Et je dirais que tu as l'amour obsessionnel du personnage au petit déjeuner, celui du verre à midi, celui du public le soir, et qu'à chaque instant tu parles des nuances de la poétique et des détails de la psychologie, et j'en sais quelque chose puisque nous avons partagé plusieurs fois du temps sur des spectacles. Alors aujourd'hui que tout est en suspens, j'aimerais que tu me racontes les perles de ton parcours et les grandes rencontres, et puis qu'on se demande ensemble pourquoi une société ne peut pas se passer de théâtre, pourquoi toi tu n'as pas pu te passer du théâtre et pourquoi il t'appelle encore aujourd'hui.
Ce confinement non seulement permet mais oblige à une sorte de retour sur soi-même. Oui, ce qui m'intéresse c'est vraiment de fouiller, d'interroger presque sévèrement les raisons pour lesquelles un jour j'ai choisi le métier de d'homme de théâtre, de comédien. Ça me renvoie à ma toute petite enfance. Et il y a un tout premier souvenir qui jaillit comme un plaisir d'être au public. C'était durant un réveillon. Était-ce un réveillon de Noël ou de Nouvel An? Probablement plus de Nouvel An. Je devais avoir 6 ans, 7 ans au maximum. À l'époque, on avait appris à écrire à partir de 5 ans. On écrivait pour les parents, pour les grands-parents, pour la famille, une lettre. C'était des petites lettres ouvragées, dont les bords étaient avec une sorte de dentelle, comme ça. Et je me souviens du moment où j'étais l'aîné des petits-fils. Je me souviens du moment où, voilà, c'est à toi de dire ton compliment et de t'adresser à tout le monde, comme ça. Et c'est un moment, pour moi, c'est un premier état de ce plaisir que j'ai toujours éprouvé, de parler aux autres, d'être présent aux autres. Juché sur une chaise, probablement, pour être visible par tous, je m'en souviens. Et je suis en train de glaner dans mes souvenirs d'enfant tous les signes qui pouvaient me déjà prévoir éventuellement ou envisager à la fois secrètement, quand je disais avoir été un très mauvais élève dès l'adolescence, et bien mon rêve était déjà, il était en Gésine, quoi, il était ailleurs, que ce soit durant la période de l'école primaire, Et puis après, au collège, dès qu'il y avait un spectacle à préparer, ben, j'en faisais partie. Et le premier, ça, c'est celui du collège, c'était Le Voyage de Monsieur Perrichon, où je jouais l'un des deux jeunes premiers. C'était mis en scène par un de nos professeurs, c'était tous des prêtres, hein, c'était un collège catholique. Et je me souviens de photos de moi jouant ce personnage. Et comme au théâtre, ben, on se grime, on se fait... Alors, j'avais déjà les sourcils bien marqués, j'avais 14-15 ans, j'avais les sourcils, ben, ils étaient surmaquillés, on dirait Groucho Marx. Ouais. C'est Groucho Marx, ce qui est très curieux, ce qui est tout à fait sympathique. Je suis belge, hein, je suis né à Lessine, là où est né René Magritte. J'ai terminé mes études, c'est-à-dire les humanités gréco-latines anciennes, à l'Athénée Royale d'Ixelles, donc Bruxelles. J'ai passé un an à l'Université Libre de Bruxelles, en renonçant définitivement aux études de médecine, qui auraient fait tellement plaisir à ma mère. Et j'ai fait une année de droit. Et je faisais partie, là, du jeune théâtre de l'ULB. C'était l'époque, on est en 58, l'époque où il y avait de grands festivals universitaires partout en Europe. Le premier auquel j'ai fait partie, c'était à Parme. Parme, c'était éblouissant. C'était pratiquement mon premier voyage hors de Belgique. Parme en Italie. Et puis après, Bristol en Grande-Bretagne. C'était l'époque à la fois des grands festivals universitaires et qui ont donné d'ailleurs au métier les futurs grands animateurs. Pour ne citer deux, on peut en France parler de le théâtre antique de la Sorbonne, évidemment, hein, et puis des animateurs, des grands metteurs en scène, Jean-Pierre Vincent, Patrice Chéreau, par exemple. Le choc définitif pour moi a été et mon choix immédiat, ça a été de voir, c'était en 59, en avril 59, de voir le Théâtre National Populaire, le TNP, dirigé par Jean Villard, et de voir à Bruxelles, au Palais des Beaux-Arts, trois soirées de représentation en tournée. C'était Mère Courage, L'École des Femmes, et puis l'Édipe de Gide. Voilà, j'ai été immédiatement ébloui, je savais que c'était... J'ai renoncé immédiatement, j'ai dit à mes parents, je m'en vais. Vaguement, je savais qu'il y avait lié au TNP un cours d'art dramatique en mémoire de Charles Dullin. Enfin, Charles Dullin, il est mort en 49. Je ne l'ai jamais rencontré. Malheureusement, j'ai travaillé avec des gens qui étaient les derniers élèves de Dullin. Et Charles Dullin est très certainement pour moi la figure, l'artisan du théâtre, l'homme du théâtre, dans toute son ardeur, son humilité, qui est le vrai exemple, à mes yeux, de ce que doit être un authentique homme de théâtre. Et je suis venu, j'ai suivi pendant... Je suis venu à Paris, au cours du Lin, c'était en septembre 59. Au bout de quelques mois, j'ai rencontré la femme de ma vie, qui est la mère de mes enfants, de nos enfants. Là, j'ai hésité. Je dis, est-ce que tu veux vraiment... est-ce que c'est le choix que tu fais de ta vie? Je suis retourné dans mon pays pendant quelque temps pour remplir mes obligations militaires, ce qui m'a permis de réfléchir. Et quand je suis revenu, j'étais convaincu que je souhaitais faire ce métier, me consacrer à ce métier pleinement. Ça a été, j'ai fait mon premier, on a répété le premier spectacle au théâtre Récamier. C'était la première mise en scène de Gérard Bergès. Et je jouais, c'était Oreste, l'Oreste du Ripide. Et celui qui a rencontré 500-600 comédiens en préparation de tirer la fronde, c'était Robert Guèze, dont je suis allé un jour, voilà, un peu comme plein d'autres, à un rendez-vous. Et il me dit, je cherche un archange. Vous êtes un archange déchu. Alors j'ai dit, ah bon, très bien, ça, je n'étais pas contrarié. Luciférien, ben oui, ça me parlait aussi un peu, très bien. Alors j'ai dit, voilà, nous sommes en train de répéter Oreste le Ripide. Et le metteur en scène, deux semaines après, est venu à la première. À l'entracte, il y avait un entracte. Il vient dans la loge, il me dit, voilà, je suis obligé de de quitter, parce que demain je commence tôt, je peux passer demain des essais filmés à tel endroit dans Paris, c'était derrière les Invalides. Si ça vous amuse, ben venez. Donc j'y suis allé, et là, aux surprises, ben, il n'y avait que des archanges. C'est-à-dire, il y avait 6 ou 7 comédiens, tous blonds, très blonds,
d'accord,
et tous aux yeux bleus ou très verts. Voilà, des archanges, quoi. Bon. Alors, je ne pouvais que constater que j'étais une sorte de vilain petit canard là-dedans. On m'a donné 3 pages de dialogue à étudier dans la demi-heure, et j'étais tout plein de joie. Ça a complètement troublé l'idée qu'ils avaient de leur personnage, au point que, après avoir vu les essais filmés, m'a dit, il faut qu'on refasse des essais. Alors, ils ont choisi le plus archange des autres, et puis moi-même, etc. Et j'ai reçu quelques jours après un télégramme disant, voilà, on espère ne pas se tromper, mais c'est vous qu'on choisit. Voilà, cette sincérité-là, pour moi, la sincérité est toujours primordiale dans tous les rendez-vous. Je crois que c'est cette tonalité-là qui a dû décider du choix qu'on a fait de ma personne. Mais ça a été tellement énorme, oui, d'emblée. Voilà, le personnage, c'est un personnage entier, loyal, sincère, dévoué, etc. Bon, il est un chevalier blanc, défenseur de la veuve et de l'orphelin, comme on disait.
Oui, c'est une sorte de Robin des Bois, un peu.
Oui, on disait, c'est le Robin des Bois, oui, à la française, quoi. Moi, un de mes deux héros d'enfant, mes deux modèles d'enfant, l'un c'était Tintin, bien entendu, parce que Tintin, au sortir de la guerre, j'ai vu mon premier Tintin en 45. Oui. Hein, c'était Tintin au Congo, puis Tintin en Amérique, les premiers, etc. Et l'autre modèle, c'est Tarzan. Tarzan, les films de Johnny Westmiller. Et je grimpais, chez moi, il y avait plein de grands arbres. Bon, j'étais tout le temps dans les arbres. Je dis, mon tempérament, c'est d'abord d'être épris d'une liberté. Quand je sens que l'étau se resserre, ben, je choisis de m'éloigner. Quand j'ai décidé de ne pas poursuivre, au terme du contrat de 2 ans que j'avais, on a fait 52 demi-heures, hein, voilà la somme des épisodes qui vont exister. Bon, ben, quand on a une chance comme ça, il faut en profiter, etc. Non, j'en ai jamais profité, ni financièrement, ni d'aucune manière, mais parce que, voilà, il y avait là, soudain, un contexte, même s'il était agréable, j'ai toujours adoré les galops, les duels avec mon ami Raoul Biret. Qui était,
ah ouais, il y a des images qui sont...
Ah oui, mais Raoul, c'est mon plus vieil ami dans le métier. Je veux dire, bon. Et puis la complicité avec les compagnons, les camarades et tout ça. Je veux dire, j'ai dit, bon, merci, mais maintenant je vais apprendre mon métier. Et mon métier, c'est quoi? C'est de servir le grand répertoire. Oui, le grand... Oui. Moi, je suis d'abord, on dit, un homme de cinéma. Oui, c'était une... S'il n'y avait pas eu Thierry Lafonde, il n'y aurait pas eu Le Bonheur, il n'y aurait pas eu Agnès Varda. Oui. C'est parce que médiatiquement, il y avait beaucoup. J'ai dû, je ne sais pas, un collectionneur, je suis rendu compte j'avais eu en un an et demi, plus de 30 couvertures de magazines, quoi, etc. C'était énorme et pas souhaitable. Moi, je dis aux jeunes comédiens, non, ce n'est pas souhaitable, il ne faut pas viser ça comme ça. Cette notoriété-là, il faut la gagner... Il faut la mériter autrement. Et là, j'ai dépassé du côté, soudain, des intellectuels dans mes choix. Et, oui, et le public populaire avait le sentiment d'avoir perdu son acteur populaire, comme ça. Peter Brook est venu à la couturière, donc la première... je ne connaissais pas Peter à l'époque. Il a recommandé à Tony Richardson, le metteur en scène de Tom Jones, qui avait été un événement cinéma, etc.
Ah, voilà, nous avons un problème de connexion. Le premier problème de connexion lors de cette interview virtuelle. Jean-Claude ?
Allô ? J'en disais où ? J'ai reçu un télégramme me priant de le rejoindre à la gare de Fresnay, pour ne pas le nommer, pour le projet d'un film d'après un roman de Nabokov, Chambre obscure. En anglais, c'est Laughter in the Dark. Un projet avec trois rôles principaux. Le premier étant Richard Burton. Le second personnage féminin, c'était Anna Karina. Et le troisième, ben, c'était moi-même. Bon, là, c'était un événement considérable. Malheureusement, le film a eu des avatars un peu. C'est que Richard Burton et Tony Richardson se sont malentendus, fâchés, etc. Richardson avait constaté faute professionnelle de la part de Burton. C'était à la une de tous les journaux londoniens. C'est Burton sacked. Donc, saqué du plateau.
Ah, il y a carrément eu un scandale.
Ah oui, oui, ah, ça oui. a été... oui, il était amarré, pour l'anecdote, ils étaient avec Liz Taylor, sous la tour de... près du London Bridge, la tour de Londres. Et puis, il y a eu, obligé par les distributeurs, une réconciliation immédiate nécessaire. Et c'est là où Liz Taylor est entrée dans une rage folle à la lecture des journaux. Et puis là, Tony Richardson, il s'est dit, bon, je ne savais pas s'il fallait que je rentre à la nage ou pas. Pendant un jour, on n'a pas tourné. Deux jours après, c'est Nicole Williamson, ben, qui est le Merlin d'Excalibur, qui est un formidable acteur, qui a repris le rôle, on a refait les scènes. Petit à petit, voilà, j'ai commencé à me méfier de la perspective cinoche, cinéma, et à me dire quand je serai prêt, je vais créer ma compagnie. Ce que j'ai fait avec une grande rencontre que j'ai faite en 75, c'est celle avec Joseph Delteille pour avoir au théâtre créé une adaptation d'un livre, d'un roman qui s'appelle Jésus 2. Donc j'ai connu Delteille qui pour moi, jusqu'à sa disparition, 3 ans après, ça a été la personne qu'il fallait que je rencontre. Il a été en littérature une coqueluche des salons littéraires, je parle dans les années 20. Hein. Il a fait partie du groupe céréaliste. Je souhaitais travailler comme Villard. L'exemple de Villard, je dis Villard, c'est mon étoile polaire. Travailler dans le service public. Le directeur du théâtre, du théâtre au ministère de la Culture, c'est Robert Abirached. Et donc, je m'étais exprimé pour dire voilà, je voudrais travailler dans l'esprit du service public. En 83, donc, Robert Abirached m'apprend que Jacques Lang, qui était ministre de la Culture, m'apprend ma nomination au CDN de Reims. Un an et demi après, en 85, j'ai été réquisitionné pour succéder à la direction du Théâtre National de Belgique. J'étais toujours belge, je le suis d'ailleurs toujours, et j'ai été nommé sans avoir été candidat par le conseil d'administration. Alors, on avait dit, le président avait dit, si, il ne refusera pas. Bon, au ministère en France, on m'a dit, Robert Abirached, il m'a dit, c'est important pour vous, c'est important pour vous, c'est important pour nous. Et je suis devenu ce qui me contrariait assez dans la presse en Belgique, dit Drouot, belge de France, 50-50, je suis flamand par ma mère, je pense que beaucoup d'aspects de mon, non pas de mon tempérament, mais de ma rêverie, de mes aspirations les plus intimes, sont plutôt sur le versant flamand. J'aurais pu m'éprendre et trouver que la responsabilité d'un grand théâtre, c'était le Théâtre National de Belgique, c'est le premier théâtre du pays, hein, c'est... Et là, j'ai choisi, au bout de 4 ans, je dis, je ne demanderai pas mon renouvellement, je vais reprendre ma liberté, je repars. Et quelques années après, Jean-Pierre Miquel, l'administrateur du Français, m'a fait la proposition surprise d'entrer à la Comédie-Française.
Oui.
J'étais évidemment très, très heureux, très fier, alors que le même Jean-Pierre Miquel m'avait dit... c'est pas une maison par toi. Pour toi, tu seras pas, tu vas pas t'y retrouver, tu ne seras pas heureux. Bon, et donc, douce surprise, c'est que là, je suis entré pendant 2 ans et demi dans cette maison. Et là aussi, au bout de 2 ans, j'ai dit, je vais pas rester. Et pourtant, j'aime l'esprit des communautés. J'aime l'esprit d'un cloître. J'aime l'esprit d'un monastère. J'ai le sentiment qui est, répète, illusoire, évidemment, d'un besoin d'indépendance et de liberté différente pour être disponible à la fois dans les choix que je fais personnellement et puis dans la surprise qui permet d'accueillir d'autres projets.
Et à la Comédie-Française, tu as joué des rôles qui t'ont plu?
Oui, ben j'ai oui, l'école des femmes et puis je dirais surtout à Richelieu, je jouais Auguste de Sydna avec Simon Haine qui avait mis en scène. J'avais le sentiment, quand j'ai signé mon contrat, j'ai dit, ben, j'ai l'impression de réparer la déception que j'avais eue de n'avoir jamais fait partie du théâtre de l'équipe de Jean Vilar. Jean Vilar avait été la direction du TNP en 63. Roger Molien, qui faisait partie de l'équipe avec Gérard Philipe et tous les autres camarades du Théâtre National Populaire, et qui, à ce moment-là, était entré, lui aussi, à la Comédie-Française. Un jour, je parlais avec, je lui disais, bon, j'avais l'impression, j'avais le sentiment de réparer un peu ce manque, comme ça. Et lui, il m'a dit, mais tu sais, c'est pas, non, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et c'est vrai que je parle pas d'esprit, hein, je parle pas d'esprit, mais je crois que l'éthique, la réalité de la Comédie-Française, c'est la présence du répertoire, l'accueil dans le répertoire de nouvelles pièces, etc. Il n'y a pas que le grand répertoire du 17e ou 18e. L'éthique sociale de Jean Vilar, la responsabilité service public, ben, politiquement, elle est d'une autre nature, je crois, elle
Oui,
était d'une
c'est
autre
sûr.
nature. Donc, c'était pas en conflit, mais enfin, c'était deux exemples très, 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 très nets. Non, j'ai pas envie de. J'ai joué le jeu, comme on dit, c'est-à-dire avec beaucoup de loyauté et de conviction, hein, mais j'ai éprouvé là aussi, là encore, le besoin de reprendre une liberté. Voilà.
Et à ton avis, pourquoi le théâtre n'a pas disparu au milieu de toutes les propositions virtuelles dans lesquelles la nouvelle génération évolue? Tu vois ce que je veux dire?
Ben, c'est ce qu'on appelle le théâtre vivant. Rien ne remplace. Pour moi, je veux dire, pour moi, je dis Drouot, si, homme de théâtre. Et théâtre, ça veut dire c'est la présence vivante. C'est-à-dire, le théâtre, pour moi, c'est cette discipline que j'en attends et la plénitude que j'en attends, c'est de, au jour le jour, non pas d'être dans la routine d'une reproduction d'un travail bien fait, non, ça ne m'intéresse pas, mais d'une remise en question au quotidien, avec tous les éléments de la pièce, avec notre capacité au jour le jour d'être plus ou moins dans la bonne énergie, etc. Et le projet au jour le jour, c'est d'être là. Peut-être, je ne l'ai pas fait, mais peut-être, quand je dis pour moi, le théâtre, c'est mon espace sacré. C'est une célébration. Pour moi, le divertissement, il y a de grands comédiens très virtuoses, c'est très satisfaisant, tout ça, mais l'idée du divertissement ne me suffit pas. Oui, apporter quoi? Apporter,
Du réconfort,
oui,
de
enfin,
la
c'est surtout
réflexion.
essayer de communiquer une intelligence,
D'accord, ouais.
c'est partager une réflexion, c'est au travers des émotions, la manière dont on va incarner nos partitions, ben de permettre là au spectateur, à l'auditeur, d'être confronté à sa propre, à sa propre histoire. Et là, le théâtre, oui, il est vivant, parce que cette chose-là ne peut pas, on peut pas transcrire ça virtuellement, non.
Oui.
Hein, comme la messe en virtuel, bon, c'est bien que ça, en période de obligatoire comme ça.
Ouais, alors la vertu réflexive de la messe, moi je la trouve un peu moins grande que la vertu réflexive du théâtre, mais c'est peut-être une question de génération et de rapport à la religion. Après, peut-être qu'on trouve effectivement, on peut trouver ce même effet de communion, de...
La composition d'un public, normalement, elle n'est pas, c'est hétérogène, quoi. Toutes les formes de personnalité, de sensibilité, d'émotion, etc. Le public, quand on dit, tiens, le public apprécie, quand tu dis, tiens, un acteur, on dit, ah, il croit, il a besoin de croire pour être dans la confidence, quoi. Il a besoin de. Il ne faut pas que ce soit que les dés soient pipés. La tricherie, c'est pas bien, quoi. C'est pas bien. Le public, il n'est pas dupe de ça. Et moi, ce que je souhaite, c'est que. Je pense que quand on a le sentiment d'avoir très loyalement fait la traversée, on est dans le calme de soi-même. On est, voilà, dans une forme d'une sincérité absolue et totalement loyale. Et puis, le fait de la présence charnelle du public fait qu'on est tenu, non pas à masquer, non pas à briller, à faire le clown, hein, ça c'est pas suffisant. À essayer, fasse quelque chose d'utile, qu'il y a un écho, voilà.
Oui, t'es très exigeant envers toi-même quand tu apprends un rôle, quand tu travailles un rôle, quand tu joues.
Le metteur en scène, il a à gérer la justesse de tous les interprètes, de tous les rôles. L'acteur, l'actrice, on descend dans la matière d'un rôle. Beaucoup plus intensément et plus complètement que le metteur en scène, probablement. Donc l'acteur, je pense, en sait plus sur le rôle même que le metteur en scène, même le meilleur. Le travail du metteur en scène est un travail de chef d'orchestre, oui. Bon, et de directeur d'acteur quand il s'agit de mettre sur la voie, de mettre en éveil des interprètes, évidemment, sur la nature de leur rôle, s'ils sont... Si ça ne sonne pas juste, quoi.
Si je te demande, c'est quoi ta plus belle expérience ?
Ce que j'appelle mes rôles fondateurs, c'est-à-dire ceux où j'ai eu le sentiment qu'ils me permettent de m'ouvrir, de me prolonger, etc., ou de faire l'autopsie, quoi, plus secrète. Ben, ces rôles-là, c'est d'abord Alceste, le misanthrope, que j'ai beaucoup joué, et mis en scène aussi par la suite. Alceste, homme du refus. Ben oui, ça je peux me reconnaître là-dedans, quoi. Ça me parle. L'autre c'est Cyrano, que j'aime énormément. Cyrano, Keane. Je vais également parler du roi Lear. Des extravagants finalement, qui sont dans une sorte de voyageurs dans un espace de vagabond, d'un espace mental, comme ça, lyrique. Un ami, grand chanteur lyrique, m'a dit un jour, dans tes interviews, tu parles souvent de « j'ai envie de chanter le monde ». Et il a raison, c'est, je le dis souvent, chanter le monde, chanter l'univers. Tiens, je repense en disant ça à Joseph Delteil, dont je parlais. Eh bien, Joseph avait cultivé philosophiquement la capacité au quotidien, capacité d'émerveillement au monde. Ne pas occulter ça, ce remerciement au monde. Et donc porter au-delà de soi, et dans l'acte théâtral, ben, il s'agit bien de ça. C'est-à-dire cette possibilité de parler de l'humain, évidemment dans l'incarnation des personnages, de telle ou telle circonstance, tel événement, telle circonstance humaine ou plus largement ou politique, etc. Mais voilà, montrer à la fois la splendeur de l'homme et ses considérables défauts, ce qu'il y a de burlesque, de grotesque et de sublime en lui. Voilà, ça c'est comme ça que ça m'intéresse.
Et ta plus belle collaboration ?
L'une que je regrette le plus. J'ai parlé de Peter Brook. Au moment du cimetière de voiture, il était venu voir, comme je l'ai dit, le spectacle à Paris, en France. On était en 68. Hein. Et il préparait La Tempête de Shakespeare. Et il souhaitait que je joue Ariel. Bon, et par la suite, Peter, quelques années après, voulait reprendre Timon d'Athènes. Je n'avais pas vu Peter depuis... des années, voilà, mais je ne pouvais pas le faire, cette reprise. J'aurais beaucoup aimé, mais je n'étais pas libre. Et Peter m'a dit, est-ce que vous savez maintenant qui vous êtes ? Alors, bon, un peu surpris par la question, j'ai balbutié, je pense bien, oui, il me semble que oui. Ça, c'est Peter, voilà. Il n'est pas dans le sacerdoce du théâtre service public, il est dans l'éveil des âmes. Tiens, pour l'anecdote, quand j'ai été nommé donc cavalièrement à la direction du Théâtre National de Belgique, je n'avais pas évidemment l'expérience d'un grand théâtre comme ça. Je dis, il faut que je demande conseil à quelqu'un. Et j'ai choisi de demander ce conseil à trois personnes. Le premier, c'était Roger Planchon. Le conseil qu'il m'a donné, il m'a dit, un pas en avant, deux pas en avant, un pas en arrière. Deux pas en avant, un pas en arrière. Bon, on finit toujours par avancer, ça veut dire. Hein. Mais c'était, pour résumer, c'était vraiment ça, son conseil.
Okay, bon, intéressant.
Et le second, c'était Jean-Pierre Vincent. Et Jean-Pierre était à l'époque administrateur du Français depuis un an. Et puis il se bagarrait un peu contre toute la difficulté, l'establishment du Français, etc. Et Jean-Pierre m'a dit, si tu peux virer tout le monde, tu vires tout le monde.
Comment ça?
C'est-à-dire que lui, son problème, c'est qu'il avait sûrement envie de lourder plein de gens, mais il ne pouvait pas. Alors, c'était son conseil, c'est si tu veux virer tout le monde, tu vires tout le monde. Tu vires tout le monde. Bon, ça, c'était le conseil. Chacun était vraiment dans sa réalité. Ouais. Et le troisième, ben, c'est Peter, que je suis allé voir, Peter Brook, qui m'a dit, celui qui a créé ce Théâtre National Belgique après la guerre, c'est Jacques Haussmann, auquel je succédais. Il a été directeur très autoritaire, très, comme ça, très important, pendant 30-40 ans. Quoi. Le conseil de Peter, il m'a dit, j'aime beaucoup Jacques Haussmann. Ça veut dire, sans en dire plus, ça veut dire, ne vous fâchez pas avec lui.
Ah, ok.
Oui, comme ça. J'aime beaucoup Jacques Haussmann. Chacun sa méthode hein, pour donner des conseils. Mais sans en dire plus, c'était vraiment, ben, faites en sorte que ça se passe bien entre vous.
Ouais,
ben, oui. On a fini par se fâcher.
Ah bah, bien sûr.
Voilà. Le conseil de Peter était, ben, il était le bon, parce que moi, je n'ai pas dans mon goût spontané l'envie de me fâcher avec quiconque.
Et est-ce que tu as déjà trahi tes valeurs ?
Il faudrait que là, on me le répète, on me le signale sévèrement.
Et est-ce que tu penses que tout aurait été différent si tu avais été une femme ?
Différent de...
Tous les événements de ta vie, les rencontres, les rôles, les choix, les désirs.
Difficile de répondre de façon ordinaire. Je me dis pas, tiens, j'aurais aimé être une femme.
Mmh.
J'aurais plutôt préféré être une femme. Non, je me le dis pas. Je me le dis pas. Des rôles de femme, ça m'est arrivé de me travestir dans
oui.
certains... Oui, non, mais ça c'est assez drôle. Si j'avais été une femme... J'ai une grande famille. Ma femme m'a donné 4 enfants. J'ai 7 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants. C'est une famille unie. Je veux dire, je sais que ma femme a eu, ça je peux le regretter pour ce qui me concerne, mais dans sa petite cuisine, elle a été à l'écoute, elle a eu les confidences, toutes les confidences les plus intimes, les plus de ses enfants. Chose que je n'ai pas eue, moi. Donc, ce qui donne envie de l'extérieur, ça c'est pas moi qui en décide, je peux décider des choses que j'ai envie de faire moi-même, de conduire moi-même, parce que... Mais quand ça vient de l'extérieur, c'est parce qu'on se dit, tiens, bon, on me suppose peut-être, c'est pas une question uniquement de notoriété, ou savoir à peu près à qui on a affaire, etc., et d'envie, etc., on me suppose peut-être des qualités que je n'ai pas.
Ah ouais, carrément.
Non, mais il y a des... C'est-à-dire que j'ai le sentiment qu'il ne faut pas que j'attende du dehors, que le dehors me révèle à moi complètement.
Oui.
C'est à moi de le faire.
Qu'est-ce qui te donne de l'espoir ?
L'espérance, c'est être dans une forme de générosité, quoi, d'ouverture, et pas de fermeture ou d'inquiétude qui fait que chacun s'isole, se replie sur sa propre petite réalité. Hein, quand Andy Warhol disait « Bon, il faut que chacun ait son quart d'heure de gloire », Hein, oui, bah, au moins qu'on y réfléchisse, quoi. Je veux dire que moi j'ai, ça va, j'ai eu beaucoup plus que mon lot à cet égard, hein. Mais là, il faut retrouver Charles Dullin, quoi. Il faut retrouver l'humilité de l'artisan. L'humilité. Je ne parle pas de modestie, je parle de l'humilité de l'artisan, du travail bien fait et de la qui permet aux passions, aux grands désirs, le grand désir en soi de faire de belles choses, enfin, quand on dit belles choses, d'extirper de nous, de mettre nos désirs comme ça, ce qui nous anime, notre rut essentiel, de le mettre, de pas de mettre en couveuse, mais de le faire complètement, de l'ensoleiller, quoi.
Si tu devais choisir trois livres de chevet.
Trois livres. Ah ben, je vais reprendre la préface que je lis de Victor Hugo, la préface de Cromwell. Alors, ben, il dit, ben, la Genèse, donc la Bible, Homère, mais je peux raconter quelque chose sur les sur les yeux d'Elsa.
Ouais, vas-y.
Louis Aragon, je reviens à José Delteille, avait une très grande admiration pour lui. Pour Delteille, c'était un prince, quoi, un prince. Et c'est Louis Aragon qui a fait entrer Delteille au groupe surréaliste. Delteille a été excommunié, je disais plusieurs fois, il me l'a raconté en rigolant, excommunié par Breton en 1925, quand il a eu avec sa Jeanne d'Arc le prix Femina. Et Breton lui a dit, qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Et tout ça. Bon, c'était terminé. Aragon, avec sa dame, Elsa Triolet, les yeux d'Elsa,
Ouais.
eh bien, ce regard-là, le regard d'Elsa, j'ai eu ce type de regard deux fois. C'est un regard qui vous pointe et qui vrille en vous. J'étais très surpris, là, par l'insistance. On est comme ça fouillé, on était dans une relation tout à fait de courtoisie, hein, comme ça. Mais, tac, très, l'impression d'être taraudé jusqu'à l'os, jusqu'à l'âme, comme ça. Et l'autre regard, pareil, russe, elle aussi, c'est Gala, qui était la muse de Salvador Dali,
D'accord.
et Gala, ex-Éluard, ex-Paul Éluard, qui avait le même regard inquisiteur, comme ça, complètement fouillant à fond. Sur un tournage, le phare du bout du monde, qu'on tournait près de Cadaquès, je suis devenu assez vite, c'est bon, je sais plus par quelles circonstances, mais un familier de Salvador Dali. J'ai même posé pour lui, et il m'a demandé, il souhaitait faire un Saint-Georges ou un Sébastien, enfin voilà. J'ai devenu son chevalier. J'étais encore dans la trajectoire et la réalité de mon chevalier Thierry, enfin, j'étais le chevalier. J'étais trop jeune. Quand on se mesure, j'avais quoi, 35 ans, à des personnalités aussi pleines, riches, débordantes que Dali, c'est, ben, on sautait, on écoute. J'étais attentif, mais on n'est pas dans le dialogue, je veux dire. Dali, ce soir-là, dit qu'il écrivait une pièce érotique. Il disait des trucs incroyables. Et après dîner, on descend dans son atelier pour la petite projection. Dali me dit, ben, j'ai pas pu avoir le film de Le Chien Andalou, mais j'ai un premier très court métrage. C'était un petit Charlot. Bon, très bien, surprise quand même. Bon, un petit Charlot. Et le deuxième. Ben, c'était un film muet, érotique, c'est-à-dire très. Je ne vais pas vous raconter le scénario, mais on peut imaginer un homme sur une civière avec deux infirmières très
Ah
intentionnées,
oui.
hein, et que s'occupant activement à un moment donné du mourant, ben, leur anime. Bon,
Ah ouais.
un truc, mais sordide,
Un peu sordide.
sordide. Un truc ahurissant, un film porno des années 20, quoi. Bon, et Mais rien, un court-métrage, quoi. 5-10 minutes, c'est tout. Bon. Et puis après, petit cadeau, et Dali sort une grande boîte en souvenir de la soirée. Et puis Douglas était à quelques mètres, on n'était pas côte à côte, comme ça. Alors il ouvre la boîte avec, je ne sais pas, dans un sex shop de Barcelone. Bon, il avait plein de petits gadgets, comme ça. Hein. Vous voyez, le truc est ahurissant, le moment est complètement ahurissant. Priant Douglas de choisir. Bon, Dali prend un truc, et le truc, c'est une sorte d'appendice pour la langue. Hein. Vous y mettez la langue, il y a une langue hérissée de poils de caoutchouc, enfin, vous voyez l'usage qu'on peut en faire, et pour que ça tienne avec deux élastiques pour derrière les oreilles. Le lendemain matin, j'arrive pour le maquillage, 8h au maquillage, et Kirk Douglas, il me voit arriver, il se précipite vers moi, et il me dit, mais tu le connais bien, il savait qu'on se voyait souvent, tu le connais bien ce type, mais c'est un fou, comme ça. Bon, ça c'est pour l'anecdote, hein. Et quelques jours après, comme ça, ça ne va pas plus loin, Kirk Douglas fait un cocktail pour l'équipe et tout ça, et Dali est invité avec gala, sans contentieux, hein, entre Douglas et Dali. Et à un moment donné, gala vient vers moi et me dit la chose suivante, je ne sais pas si vous aurez envie de nous revoir après.
Est-ce que tu aimerais conclure par une citation ou une série de vers ou une réplique?
J'ai envie de... Ben je pense à L'art d'être grand-père de Hugo. Et là, il ne faudrait pas que je me trompe. Que voulez-vous? L'enfant me tient en sa puissance. Je finis par ne plus aimer que l'innocence. Bonté, fureur, c'est là mon flux et mon reflux. Et je ne suis borné d'aucun côté, pas plus quand ma bouche sourit que lorsque ma voix gronde. Je me sens plein d'une âme étoilée et profonde. Mon cœur est sans frontières et je n'ai pas d'endroit où finissent l'amour des petits et le droit des faibles et l'appui qu'on doit aux misérables. Si c'est un mal, il faut me mettre aux incurables. Je suis vieux ou passé, et moi, triste ou content, j'ai la paternité du siècle sur l'instant. Trouvez-moi quelque chose, et quoi que ce puisse être d'extrême, appartenant à mon emploi d'ancêtre, blâme aux uns ou secours aux autres, je le fais. Un jour, je fus parmi les vainqueurs. J'étouffais. Je sentais à quel point vaincre est impitoyable. Je pris la fuite. Un roc, une plage de sable m'accueillirent. La mort vint me parler. Proscrit, me dit-elle. Salut. Et quelqu'un me sourit, quelqu'un de grand qui rêve en moi, ma conscience. Et j'aimais les enfants, ne voyant que l'enfance au ciel mystérieux qui valut mieux que moi. L'enfant, c'est de l'amour et de la bonne foi. le seul être qui soit dans cette sombre vie, petit avec grandeur, puisqu'il est sans envie, c'est l'enfant. C'est pourquoi j'aime ces passereaux.
C'était So Much Drama, une conversation sans drame avec des artistes dramatiques, le rendez-vous théâtre proposé par Aurélie Ruby sur Art District Radio, à retrouver en podcast et en diffusion les mercredis et vendredis à 9h30 et 18h30.